Cours de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe, le 15 mars 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
D'habitude, le cours éthique est en fin de matinée, alors ventre affamé et n'a pas d'oreille. Vous comprenez que le cours d'éthique, souvent, est un peu télescopé. Alors maintenant, grâce au chapitre, on peut le mettre le matin. Parce que c'est quand même très important, hein. L'éthique et la métaphysique. Plus la métaphysique va loin, plus l'éthique doit être forte et enracinée. L'éthique, c'est l'anthropologie. Si vraiment on a compris ce que c'est que l'éthique, la psychologie devrait être subalternée à l'éthique. Comprenez bien, parce que l'éthique demande la finalité de l'homme. Or, on ne peut se guérir qu'en fonction de la finalité. On ne peut se remettre en équilibre, en harmonie, qu'en fonction de la finalité. Or, on fait de la psychologie, un petit tout, indépendamment de la finalité. Alors qu'elle devrait être. Mais la psychologie est née en dehors de la philosophie, en dehors de l'éthique. Et elle se réalise actuellement en dehors de l'éthique. Un psychologue se défend. Alors, il n'a pas compris ce que c'est que l'éthique, la finalité. C'est pour ça que c'est si important de bien comprendre ce qu'est l'éthique chrétienne. Parce que nous n'avons qu'une seule vie, notre vie chrétienne. Dans notre vie chrétienne, nous essayons d'être intelligents. C'est pour ça qu'on fait de la philosophie. C'est pour que les chrétiens soient plus intelligents. Si les chrétiens étaient tous plus intelligents, les savants qui ne sont pas chrétiens, les savants qui ne sont pas chrétiens seraient attirés. Voyez comme ils s'aiment. C'est curieux comme ils sont intelligents. D'où ça vient? Alors, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si je fréquente Jésus, je deviens intelligent. Si je fréquente Marie, je deviens plus maternel. Et ainsi de suite. Alors l'éthique nous permet de savoir comment fréquenter Dieu, l'éthique chrétienne, comment fréquenter Jésus. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par le fondement des béatitudes au point de vue humain et toujours le fondement des béatitudes au point de vue humain est toujours religieux. Oui. Je vous ai dit que l'éthique chrétienne, une position très curieuse, hein. Essayez de comprendre comment le point de vue chrétien, donc de la grâce chrétienne, de la grâce qui me fait membre du Christ, permet à l'homme d'être plus profondément homme. Un vrai chrétien doit être plus profondément homme qu'un non-chrétien. Je dis, il doit l'être, hein. Il n'est pas toujours, loin de là. Mais il devrait l'être. Or, si les béatitudes données par Jésus sont vraiment ce qu'il y a de propre à notre vie chrétienne, ce qui caractérise notre vie chrétienne, bienheureux, 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 Et si les béatitudes sont vécues parfaitement en Jésus et en Marie, et j'ajoute tout de suite en Marie, je ne l'ai pas dit, mais il faut l'ajouter tout de suite. Si les béatitudes sont vécues pleinement en Jésus et en Marie, l'humanité sainte du Christ, l'humanité de Marie, sont parfaitement réalisées. Vous ne pouvez pas trouver un homme plus parfait que Jésus. Vous ne pouvez pas trouver une femme plus parfaite que Marie. J'en suis convaincu par ma foi. Si vous ne l'êtes pas, cherchez. Voyez bien ce qu'est le Christ, ce qu'est Marie. La maternité divine de Marie est, je vous l'ai déjà dit, est la chose la plus grande dans le monde des créatures. Aucune créature n'a dépassé la maternité divine. Aucune créature comme créature. Jésus n'est pas une créature, il est Dieu. Alors en lui, Dieu, quand il assume l'humanité, et qu'il l'assume de la manière la plus parfaite, c'est-à-dire personnellement, l'union hypostatique, ça veut dire ça, hein, ça veut dire qu'il l'unit personnellement. C'est l'unité la plus grande qui soit. On ne peut pas penser une unité plus parfaite que l'humanité du Christ par rapport au Verbe. Et la plus grande unité, elle est dans la personne. Pour nous, l'unité avec Dieu se fait par la grâce, et non pas par la personne. Elle se termine par la personne. Elle se termine au Christ. En étant unie au Christ, je suis unie personnellement à Dieu. Mais ce n'est pas le point de départ, c'est le terme. C'est la grâce qui me permet de faire ça. Alors, dans une perspective, je dis bien, dans une perspective d'éthique chrétienne, je cherche à voir comment les béatitudes sont un élément merveilleux pour développer, épanouir la nature humaine. Comment le levain chrétien de la grâce chrétienne est au sommet dans les béatitudes et donc permet à la nature humaine d'être parfaitement elle-même. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le fondement des béatitudes, le fondement humain des béatitudes, donc le fondement au point de vue humain, est toujours religieux. Les béatitudes s'enracinent en moi dans le point de vue religieux de mon union avec Dieu dans l'adoration. Chacune des béatitudes s'enracine dans la nature humaine en tant qu'elle adore. Le point de vue religieux est ce fondement de toute ma vie chrétienne. Un chrétien qui ne se dirait plus religieux est un faux chrétien. Parce que la grâce présuppose la nature. la grâce s'enracine dans la nature. Et elle s'enracine dans la nature comment ? Comment y a-t-il une possibilité pour la grâce de s'enraciner dans la nature ? C'est parce que l'homme est un animal religieux. Alors, vous allez me dire, mais la grâce est donnée à l'enfant sans que l'enfant soit religieux. C'est vrai. J'ai reçu le baptême quand je n'avais pas encore posé un acte religieux. Je n'avais pas encore posé un acte humain. Oui, mais il y a eu la foi et il y a eu l'attitude religieuse de mes parents. Et si mes parents n'étaient pas là, c'était le parrain et la marraine. Pour l'enfant. Pour l'adulte, c'est différent. Il est religieux. Avant son baptême, il sait qu'il va recevoir la grâce de Dieu. Et par le point de vue religieux, il est en relation avec Dieu. Mais pour l'enfant, c'est le parrain et la marraine. Donc ça montre bien qu'il faut un consentement humain pour recevoir la grâce. Le parrain et la marraine tiennent lieu de l'acte religieux de l'enfant, du désir de l'enfant. C'est pour ça que c'est si grand d'être parrain ou marraine. C'est en face de Dieu être responsable du petit qui reçoit le baptême. Il ne peut pas faire un acte libre, il le fait par emprunt du parrain et de la marraine, avec les parents. Et c'est les parents qui décident ça, parce que l'enfant ne va pas décider qui est son parrain, qui est sa marraine. Hein. Donc c'est les parents. Vous voyez, et ceci, c'est pour montrer la hâte de Dieu de sanctifier l'enfant. Il n'attend pas que l'enfant puisse poser un acte libre, il le fait avant. Et ceci, c'est normal, puisque notre nature humaine naît dans une famille. Notre nature humaine apparaît dans une famille. Et la famille est le premier lieu normal de l'enfant pour sa naissance humaine et sa naissance divine. Alors vous voyez dans quel sens je vous le dis. C'est toujours pour essayer de découvrir comment l'ordre chrétien, la grâce chrétienne, loin de détruire la nature humaine, l'ennoblit. Les béatitudes, loin de détruire la nature humaine, l'ennoblit. Et elle l'ennoblit grâce à ce fait que la nature humaine doit être religieuse. Je ne dis pas peut-être, doit être religieuse. Selon le désir de Dieu, de la sagesse de Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. Et c'est pas... C'est naturel. Nous sommes faits pour Dieu. Je n'ai pas le droit, vous voyez, comprenez, de dire, moi, non, à Dieu, je m'en passe. Non, je suis une créature. Je suis radicalement dépendant de Dieu. Je peux ne pas le reconnaître, je peux très bien ne pas, ça, c'est très juste, mais ce n'est pas ça qui me donne un droit. Je n'ai pas le droit de me séparer de Dieu. Toute la morale chrétienne repose sur cela. Et elle est humaine, parce que je ne serai parfaitement homme qu'en reconnaissant que je suis une créature. je ne peux pas être parfaitement homme sans reconnaître que je suis une créature. Oui. Ça, c'est très actuel, ça. Parce que certains voudraient la laïcité française, qui est la laïcité la plus poussée, comme laïcité. C'est-à-dire qu'on ne veut même plus entendre parler de Dieu. On veut supprimer le terme religieux pour le point de vue de l'Europe. Alors que le point de vue religieux est naturel, il n'est pas confessionnel. S'il est naturel, il doit apparaître. Et il apparaît dans la mesure où je reconnais que je suis une créature. Reconnaître qu'on est une créature, c'est être parfaitement homme. Alors, autre chose. Vous nous avez montré que les béatitudes étaient la structure spirituelle de l'éthique chrétienne. Ce qui est juste. C'est vrai. Mais est-ce que la charité des sept paroles du Christ à la croix ne peut pas, elle aussi, structurer cette éthique? Ce n'est pas une structure. Cette parole finalise. Le Christ à la croix finalise tout. Et il est en même temps source. Alors, vous voyez, il y a un parallélisme entre les deux, c'est sûr. Le Christ vit parfaitement des béatitudes. Mais le Christ termine sa vie apostolique par la croix. Il ne la commence pas par la croix. Il nous a donné les béatitudes avant. Il n'a pas attendu la croix pour nous donner des béatitudes. Ainsi, on peut voir que le cri de soif non seulement assume pleinement la miséricorde des pauvres, mais peut impliquer un au-delà, ainsi de suite, pour les autres paroles. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que ça finalise. Ça monte l'au-delà. On est toujours en appétit de l'au-delà. Les béatitudes ne se réaliseront parfaitement qu'au ciel. L'éthique chrétienne sur la terre est réalisée imparfaitement. Personne d'entre nous n'oserait dire qu'il réalise parfaitement l'éthique chrétienne. On essaie de la réaliser, mais elle est une voie vers le ciel. Oui, ça exprime la sagesse chrétienne, les béatitudes. Alors, vous pouvez, dans l'ordre de la prédication, vous pouvez, mais nous ne sommes pas dans l'ordre de la prédication ici. Nous essayons de voir ce qui fonde l'éthique chrétienne. Vous voyez ? Alors que vous regardiez les béatitudes, vous voyez la finalité. Toute l'éthique chrétienne est finalisée par la croix. Et donc, les sept paroles de Jésus crucifié me montrent parfaitement la finalité. Tandis que là, je vais parler du fondement, ce qui structure. Vous avez dit que la mort devenait une nouvelle fin pour le chrétien. Oui, c'est-à-dire que la mort a un nouveau sens pour le chrétien. Par la mort du Christ. La mort du Christ, comme la naissance du Christ, et la mort du Christ me montre d'une manière parfaite ce qu'est la vie chrétienne. Donc, donne un nouveau sens à la vie chrétienne. parce qu'elle lui donne la possibilité de glorifier Dieu par l'offrande de notre corps. Oui. Mais cette fin n'est-elle pas relative au Christ ? Oui, c'est la mort du Christ, c'est sûr. La mort en elle-même, qu'est-ce que c'est ? C'est pas une fin, ça ne peut pas être. La mort est un terme de la vie terrestre. C'est pas fin rigoureusement, c'est une fin, un terme. Et c'est à travers la mort du Christ, à travers le mystère de la mort du Christ, que nous découvrons que le corps du Christ à la croix est l'agneau. Il est l'oblation, la victime parfaite. Autrement dit, peut-on dire que la mort n'est qu'un moyen pour atteindre Dieu dans la vision béatifique, n'est qu'un moyen dans la vision béatifique, un passage profitable, voire désirable, puisqu'elle nous apporte le bien suprême. Oui, dans la mort du Christ, elle est un passage. Il faut passer par la mort pour voir Dieu. Il faut mourir pour voir Dieu. Oui. Donc, moyen, je veux bien un passage. Je ne choisis pas la mort. Je peux l'offrir. Et en l'offrant, et je peux le faire ça. Et je dois le faire si je suis chrétien. Chaque fois que vous adorez Dieu, vous vous offrez en victime d'amour, liée à l'adoration du Christ à la croix. Et donc vous considérez que votre vie, c'est le passage vers l'éternité. Vous voyez, dans les préchestes, dans les prières du carême, c'est bien ça qu'on demande. À considérer la mort comme un passage vers la béatitude. Ce n'est pas une fin, tout est terminé, non, c'est un passage. Je relativise la mort vers quelque chose d'autre. C'est une porte qui s'ouvre. Je quitte cette terre, qui est le lieu de l'épreuve. Dieu sonde les reins sur la terre. Jusqu'où pouvons-nous rester fidèles ? Alors ceux qu'il aime beaucoup, il les éprouve durement, ils sondent les reins. Jusqu'où même Dieu ? Il a sondé les reins du Christ. Et la mort de la croix, Jésus dans la mort de la croix est fidèle. Il aime. Et alors, c'est sûr que la mort du Christ transforme complètement notre mort. Notre mort prend un sens nouveau. Et c'est pour ça qu'on dit croix glorieuse. La croix est le moment par lequel Jésus peut tout donner au Père dans sa manifestation. Il a tout donné au Père tout de suite, dès sa naissance, dès sa conception, tout de suite. Je viens pour faire ta volonté. Et je viens pour uniquement faire ta volonté. Mais ça s'est manifesté pleinement à la croix. Où il est. et le nouvel Isaac offert par le Père et pour le Père. Dans ce sens, on peut dire que l'éthique chrétienne dans le Christ nous transforme d'une façon telle que toute notre vie, la mort y compris, c'est ce que nous faisons par la profession perpétuelle, la mort, on devance la mort, mais celui qui fait profession perpétuelle meurt à lui-même. Et s'il mourait à ce moment-là, il irait directement au ciel. Il meurt à lui-même. Et il offre toute sa vie en holocauste. Et il l'oublie quelquefois, vous voyez. Et quelquefois très vite, hein, dès le lendemain. Mais ça reste. Il l'oublie parce qu'il est pris par autre chose. Parce qu'il est pris parce que il est encore un vivant. Alors il veut se mouvoir lui-même. Il veut choisir lui-même. Autrement, en réalité, il est mort. Toute votre vie, vous la ramassez dans cet acte d'offrande. Vous faites un acte d'offrande avec Jésus. C'est la croix du Christ qui permet la profession perpétuelle. Si le Christ n'était pas mort, on ne pourrait pas faire profession perpétuelle. On veut que la mort du Christ soit présente en nous d'une façon telle qu'on la vive. Et c'est pour ça que les prophètes perpétuels sont dans l'Église la partie principale. Pars principalis, dit saint Thomas. Pars principalis. Et saint Thomas ajoute, est totum. La partie principale est tout. Et c'est pour ça que la vie religieuse, dans l'Église, et la partie principale. Alors, on comprend très bien comment dans les attaques du démon, il veut faire croire au monde, à un monde laïque, que la vie religieuse est une secte. Apparemment, c'est une secte. Pour le laïc, il ne veut plus regarder la croix du Christ. Pour le laïc, vous voyez, dans le sens de la laïcité. Hein. Pour la laïcité, la croix du Christ doit être écartée. Et par le fait même, la vie religieuse est considérée comme une secte. Vous vous emprisonnez vous-même. Et psychologiquement, ça peut apparaître comme ça. Si ma psychologie n'est pas subalternée à l'éthique chrétienne. Je touche le point névralgique de la liberté. Or, depuis Descartes, la liberté passe avant l'amour. Alors qu'au point de vue évangélique, l'amour est avant la liberté. C'est l'amour qui me rend libre. C'est la vérité qui me rend libre. Donc, la vie religieuse est le lieu où, dans l'Église, dans l'humanité, où je suis le plus libre. Et le démon fait croire que c'est le lieu où il n'y a plus de liberté. Et la fureur du démon, c'est très net, Aujourd'hui, il veut arriver à cette finalité que les hommes considèrent la vie religieuse comme une secte. Donc, condamnable au point de vue Descartes. Si je mets la liberté au-dessus de tout, et où je comprends plus ce que c'est que la vraie liberté. Parce que si je supprime la finalité, si je supprime l'amour, ma liberté n'a plus de sens. On s'ennuie à être libre. Parce qu'on n'est pas libre pour être libre. Être libre pour être libre, c'est de la stupidité. La liberté ne me donne pas la finalité. La finalité est antérieure à la liberté. Ça, c'est très important pour comprendre que l'éthique chrétienne sauvegarde la vraie liberté. Et c'est vrai, c'est à travers le mystère de la mort du Christ qu'on découvre cela. Jésus s'offre en victime d'amour et radicalement, puisque c'est tout lui-même qui est offert. Bon. Alors, je vais continuer. C'est évident que la mort de Jésus devient le point lumineux qui cristallise, qui polarise toute ma vie chrétienne. Toutes les béatitudes sont présentes à la croix et sont vécues d'une manière extrême, sont vécues parfaitement dans le Christ. Et c'est pour ça que le mystère de la croix demeure le point le plus lumineux d'une éthique chrétienne. Vous voyez, on pourrait mettre en parallèle, ça a été fait du reste, la mort de Socrate, qui était considéré par les stoïciens comme le modèle, la cause exemplaire de la morale et la croix de Jésus. Socrate boit la ciguë pour montrer son respect qu'il a vis-à-vis des lois de l'État, pour ne pas se mettre en révolutionnaire, en opposition vis-à-vis des lois. Et il considère que sa vie doit être relativisée par ça. C'est très beau, c'est très grand. Alors, toute la question de savoir si c'est vrai. Est-ce qu'on a le droit d'offrir sa vie pour respecter les lois de l'État? L'État de ce temps-là pouvait être considéré comme sacré, État religieux. Alors, avons-nous le droit d'offrir notre vie pour respecter les lois de l'État? C'est pas pour respecter les droits de l'État que le chrétien offre sa vie. Jésus a accepté de mourir, non pas pour respecter les droits de l'État, par amour pour le Père, pour respecter ce que le Père réclamait de lui, le bon plaisir du Père. C'est tout à fait différent. Mais ce parallélisme est très important à regarder historiquement. Ça ne me donne pas la lumière. La lumière, elle vient du Christ. Je n'ai pas besoin de Socrate pour comprendre la mort de Jésus. Mais pour expliciter, pour mieux comprendre, la mort de Socrate a joué un rôle très important dans l'histoire de la philosophie morale grecque chez les stoïciens. C'est un exemple, majeur. Alors, on peut s'en servir, mais la mort du Christ ne s'explique pas par la mort de Socrate. La mort du Christ peut rendre plus compréhensible la mort de Socrate. Et pas entièrement. Socrate n'est pas chrétien. Il n'était pas chrétien, il ne pouvait pas l'être. Jésus n'était pas venu. Donc, à ce moment-là, le dépassement de l'État était chose très délicate, mais philosophiquement était possible, avec la philosophie réaliste d'un Aristote, on peut montrer, je peux offrir ma vie au plan humain pour mon ami. Si mon ami a besoin de moi, a besoin substantiel de moi, a besoin radical de moi, et pas pour une loi. L'ami est plus que la loi. Mais l'ami respecte la loi. Je dois à la fois la respecter et comprendre que je ne puis pas mourir pour une loi. Si je ne peux pas l'éviter, la mort viendra, mais je montrerai que je meurs pour être fidèle à la recherche de la vérité. Je peux mourir pour sauver mon ami. C'est héroïque. C'est héroïque. Et ça peut se comprendre humainement. Parce que l'ami est une fin. Alors que la loi n'est jamais fin. La loi, c'est pour le bien commun. Et elle ne peut pas être fin. Donc, la mort de Jésus sur la croix est une source lumineuse pour moi qui me montre comment les béatitudes sont toutes réalisées. Et pour imiter le Christ, pour le suivre jusqu'au bout, il y aura le martyr. Et le martyr a toujours été considéré dans l'Église comme le témoignage suprême que nous pouvions donner au Christ, offrir notre vie pour que Jésus soit tout en nous. Il y a là quelque chose d'infiniment grand. Et c'est vraiment le martyr qui devient pour le chrétien le moyen de vivre de la manière la plus directe de la croix du Christ. Et le martyr, en comprenant bien qu'on ne peut pas soi-même choisir le martyr s'impose comme la seule issue possible. Il s'impose à nous, et à ce moment-là, on le choisit. Et en faisant cela, nous continuons le mystère de la croix du Christ, implanté dans l'Église, implanté dans l'humanité. Et la profession perpétuelle est un martyr non sanglant. Mais ça doit être un martyr. Il y a les deux morts, la mort visible, sanglante, et la mort invisible, Marie. Ce qui nous montre bien l'absolu et la grandeur de la profession perpétuelle. Elle est analogue au martyr. C'est le martyr non sanglant, celui de Marie, qui continue dans l'Église. Et cela fait partie de la vie chrétienne, de l'éthique chrétienne, comme le terme le plus manifeste, le plus absolu de l'exigence de la croix. On comprend très bien qu'alors le martyr relève d'un don particulier que le Christ nous fait. Et il y a l'analogue dans la vie religieuse pour être fidèle jusqu'au bout. Nous avons là l'influence la plus directe de la mort du Christ, immédiate. Et si le Christ n'était pas mort sur la croix, on pourrait dire qu'il n'y aurait pas la vie religieuse. Il n'y aurait pas le martyr non sanglant de Marie à la croix. Là, nous touchons la grandeur dans l'éthique chrétienne de la vie religieuse. Voyons maintenant comment cette charité qui s'explicite à travers les béatitudes, qui se réalise existentiellement dans la mort du Christ, comment ces béatitudes transforment le plus profond de la morale humaine. Je crois que le point premier, c'est la transformation de la fin normal du point de vue moral, l'amour d'amitié, et en même temps le point de vue radical et fondamental de la religion, l'adoration. voyez, il y a deux points de vue sur lesquels il faut voir cette transformation. La morale chrétienne implique fondamentalement l'adoration, de point de vue religieux. Et la morale chrétienne transforme complètement, elle transforme complètement l'amour d'amitié humaine. La vie humaine, au point de vue moral, est fondée sur le point de vue religieux et se finalise proprement et premièrement dans l'amour d'amitié. Il y a ces deux points de vue qui me montrent de la manière la plus explicite ce qu'est la morale humaine. La morale humaine se fonde dans ce point de vue de l'adoration. C'est la justice à l'égard de Dieu. La vertu de religion, c'est la justice par rapport à Dieu. Et l'amour d'amitié, c'est la fin par rapport à l'homme. L'ami devient fin, source d'amour pour moi. Alors, le point de vue moral doit se voir du côté de sa finalité et du point de vue de son fondement. Les béatitudes me montrent le fondement de la vie chrétienne et me conduisent au Christ crucifié, sa finalité. Alors, au point de vue éthique, chrétienne, au plan philosophique, je regarde d'abord le fondement et je regarde la finalité. Les deux se tiennent. Je ne peux pas parler du fondement sans parler de la finalité. Je ne peux pas parler de la finalité sans parler du fondement. C'est toujours très important de voir ces deux aspects. Et vous voyez, la morale chrétienne, le Christ crucifié, transforme ma vie humaine immédiatement dans son fondement de justice, dans sa finalité d'amour. Alors, je regarde d'abord, si vous voulez, le fondement, puis je regarderai la finalité. Mais les deux choses doivent être vues, je dirais, presque en même temps. Le fondement prend toute sa signification à partir de la finalité. La morale, ce qui est toujours premier en morale, c'est la finalité. Il n'y a un acte moral que s'il y a un amour, que s'il y a une fin. Celui qui n'a plus de finalité est amoral. Or, le fondement de toute moralité, c'est l'adoration. Et le terme de toute moralité, c'est l'amour d'amitié. Le terme, la fin. Alors, je dois comprendre que, en morale chrétienne, le point de vue de l'adoration est capital. Je ne peux pas être uni à la croix du Christ si je n'adore pas le Père, mon Créateur, comme Jésus l'adore. Comme Jésus. Il faut comprendre que je suis dans cette dépendance radicale à l'égard de mon Créateur. Et cette dépendance radicale à l'égard de mon Créateur, je la reconnais pratiquement en adorant. Je suis dans l'ordre pratique. Donc je ne peux pas m'arrêter à l'intelligence. Je dois passer à l'exercice de l'intelligence. Je dois passer à ce fait que l'adoration me met dans cette dépendance à l'égard de Dieu. Et je vis cette dépendance par l'adoration.